Et c'est Florence qui arrive à l'instant sur notre libre antenne. Bonsoir Florence.
Bonsoir Sabine et bonsoir à tous les auditeurs.
Soyez la bienvenue Florence.
Merci, c'est un plaisir de vous entendre.
Mireille, partagez, qu'est-ce qui vous amène?
Super. Bien écoutez, je souhaite, dans le cadre du Téléthon, je souhaite vous faire part d'un témoignage d'espoir à travers ma propre expérience.
Oui, avec plaisir.
Donc parfois commencer. Bien écoutez, à l'âge de 4 ans, donc avant l'âge de 4 ans, j'avais une enfance tout à fait ordinaire, donc jusqu'à l'âge de 4 ans. Et à l'âge de 4 ans, j'avais des premiers symptômes qui ont commencé à apparaître. Donc peu à peu, j'avais tendance à tomber, alors qu'à l'âge de 4 ans, tous les enfants sont extrêmement actifs. Ils explorent et moi j'avais du mal enfin mes jambes avaient du mal à me porter, elles ne me portaient plus. Oui. Donc peu à peu je commençais à ne plus parvenir à m'habiller, enfin ne plus pouvoir lever mes bras. Donc bon, ça c'est le récit de la mémoire de mes parents hein, et qui ont été le récit qui a été fait aux médecins qui m'ont vu plus tard, puisque forcément ils ont vu que quelque chose n'allait pas et ils ont cherché ce qui se passait à travers des consultations. Donc j'ai dû subir de nombreux examens médicaux, puis voir de nombreux professionnels de santé. On ne savait pas ce qui se passait.
C'était en quelle année quel âge avez-vous aujourd'hui?
Moi, j'ai 35 ans aujourd'hui.
Ah, donc c'est relativement récent, d'accord.
Oh, vous trouvez?
Oui, ce que je veux dire, c'est que c'était quand même pas il y a 50 ans. Au niveau de la recherche médicale et des avancées, c'était quand même plus près d'aujourd'hui que de la génération d'avant.
Absolument, c'était la fin des années 80.
D'accord.
Et voilà, donc jusqu'à l'âge de 4 ans, donc où j'ai été diagnostiquée d'une myasthénie. C'est une maladie neuromusculaire auto-immune.
Oui.
Pour faire simple, c'est une maladie qui induit une faiblesse musculaire, ce qui expliquait mes chutes et le fait que mes jambes ne me portaient plus. Donc c'est une maladie qui induit une faiblesse musculaire qui peut aller jusqu'à la paralysie.
Et oui, donc c'est... j'imagine aussi problème pour manger, pour respirer.
Exactement.
Et oui, c'est ça.
Exactement. Donc chez moi, justement, ça a touché mes muscles articulatoires, c'est-à-dire ceux qui permettent de parler, ceux qui permettent d'avaler, puisque ce sont à peu près les mêmes dans la même zone.
Oui.
Il y avait également mes muscles, les muscles de mes bras et de mes jambes. Et par conséquent, je me déplaçais en fauteuil roulant. Je ne communiquais que très difficilement avec les autres et j'étais comme confinée dans mon corps finalement, vraiment. Et mes parents ont fait des recherches, de longues recherches, et dans la fin des années 80, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. Et donc ça a été une période extrêmement difficile pour moi et donc ça a duré des années. Hein. Je suis tout de même entrée en maternelle. Et du point de vue scolaire, et d'ailleurs ça m'a sauvée, hein, du point de vue scolaire, c'est l'école, donc les performances scolaires, l'école et la lecture ont été des échappatoires. Donc voilà, il y a eu de l'errance diagnostique, clairement, puisque la myasthénie n'était pas aussi connue qu'aujourd'hui.
D'accord, mais intellectuellement, que je comprenne bien intellectuellement, ça, il y avait une dégénérescence ou pas du tout?
Pas du tout. Justement, du je tout. Performais du point de vue scolaire et c'était une échappatoire. Hein. La lecture et l'école ont été, ça a relativement sauvé mon enfance, hein, clairement.
Mmh.
Et donc voilà, mes parents ont fait des recherches jusqu'à ce qu'ils m'emmènent dans un centre parisien, puisque je viens d'une ville de province. Et du coup, dans ce fameux centre qui était bien plus performant que cette petite ville de Provence, on a pu m'aider, puisqu'il faut savoir qu'entre-temps, la maladie s'est aggravée. Mes muscles pulmonaires, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, mes muscles pulmonaires ont été touchés et je ne pouvais plus respirer. Or, vous le savez, Sabine, ce qui nous retient à la vie, c'est le souffle. Donc très tôt dans ma vie, j'ai eu cette conscience de... de la possibilité de mourir, hein, finalement.
Et quel âge avez-vous à ce moment-là, quand on vous amène à Paris?
J'avais environ 9 ans.
Oui,
il me semble que j'avais 8-9 ans. J'étais
petit bout de fille encore. Hein.
Absolument. Une enfant qui a vécu des choses extrêmement intenses dans cette courte période de vie. Et voilà, donc du fait de ces insuffisances pulmonaires, enfin de ces difficultés à respirer, j'étais admise à plusieurs reprises en réanimation pour être mise sous assistance respiratoire.
Quel parcours, mon Dieu, pour vous et pour vos parents?
Oui, je me souviens, lorsque je faisais mes crises, en effet, ma mère qui pleurait, qui était horrifiée, il fallait appeler le SAMU, enfin, c'était extrêmement difficile et extrêmement violent aussi, hein, puisque les soins, enfin, les intubations, les soins en réanimation sont extrêmement difficiles.
Vous aviez des frères et sœurs?
J'ai un frère, en effet, qui est toujours, d'ailleurs, en bonne santé.
Il était plus grand, plus petit que vous?
plus grand que moi. D'ailleurs, lorsque je ne parvenais pas à articuler, il a listé sur un bloc-notes l'ensemble des phonèmes, enfin l'ensemble des sons que je ne pouvais pas prononcer, et il le faisait, son petit compte-rendu, âgé de 12 ans, au médecin qui me suivait. Ouais, mais c'est mignon, hein.
C'est protecteur, et voilà, en tout
c'est
cas,
un frère en or, et du coup, il a participé de façon extrêmement mature, hein, à ses soins et à mon diagnostic.
Oui, c'est pas évident pour la fratrie, hein, quand il y a un enfant malade comme ça.
Oui, puisque l'enfant malade prend toute la place, étant donné que les parents sont psychiquement pris par cette maladie et les inquiétudes que ça génère, clairement.
Et puis matériellement, tous les allers-retours et tout ce qu'il faut faire, en plus, bien sûr.
Oui, vous avez tout compris, c'était très dur. Clairement, ça l'était.
C'est beau que votre frère ait été partie prenante comme ça, je trouve, aussi jeune.
C'est incroyable, hein. Ouais.
Quelle maturité il a dû avoir aussi, lui. Hein.
Oui, ça fait clairement grandir. Hein. Je pense que cette épreuve nous a tous fait grandir.
Donc là, vous arrivez à Paris. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez 9 ans.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on dit à vos parents?
Ce qu'on dit à mes parents, c'est qu'on va pouvoir me prendre en charge de façon plus adaptée, plus adéquate.
Mmh.
Et clairement, j'ai pu bénéficier de l'éclairage de grands professeurs, etc. Et j'ai pu obtenir des soins qui m'ont permis d'aller mieux. Donc ça a été une intervention chirurgicale. Bon, après, les soins ont aussi été difficiles, hein, puisque ça induit... Enfin, l'affection auto-immune que j'ai eue induisait des perfusions d'immunosuppresseurs qui avaient des effets secondaires, et là pour le coup je ne l'oublierai pas puisque ces effets secondaires étaient difficiles à supporter. C'était des migraines intenses lorsque je sortais des perfusions, des nausées, c'est des douleurs articulaires. Donc des douleurs articulaires. Et ça, pour le coup, c'était extrêmement difficile. Après, je prenais également de la cortisone qui faisait gonfler. Enfin, du point de vue de l'image corporelle, enfin, à l'entrée.
C'est pas le tout. Il y a un traitement, mais il faut penser à tout ce que
absolument.
Les effets extérieurs, les effets secondaires, bien sûr. Oui.
Tout à fait. Le but était de me sauver la vie, mais à quel prix puisqu'effectivement, ça a été extrêmement violent. Donc voilà, en tout cas, ce traitement a fonctionné, l'intervention chirurgicale, qui m'a quand même laissé une longue cicatrice. Hein. Après,
qu'est-ce qu'on a fait dans cette intervention chirurgicale?
On a fait ce qu'on appelle une thymectomie. C'est une ablation du thymus. Le thymus contribue au système immunitaire. C'est une glande qui permet de... une glande qui génère les lymphocytes, si je suis suffisamment claire. Et le fait de le retirer permet d'affaiblir le système immunitaire, puisque l'affection auto-immune induit que le système immunitaire se retourne contre les propres cellules. Absolument, une surstimulation. Et les immunosuppresseurs permettent de calmer cela, ainsi que la thymectomie. Mais j'ai quand même une cicatrice très très visible sur le thorax. Donc effectivement, bon, maintenant ça va mieux, hein, je ne complexe plus, mais durant mon adolescence, ça a été extrêmement difficile et ça a été une cicatrice, certes.
J'imagine. Est-ce que c'était récent comme trouvaille médicale, cette intervention chirurgicale, ou c'était déjà quelque chose d'un peu pratiqué?
Là, je ne saurais pas vous le dire, pour le coup, je ne saurais pas vous le dire du tout. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il m'a fallu... du moins mes parents, pour pouvoir obtenir ce type d'intervention qui finalement m'a sauvé la vie, puisque je vais mieux aujourd'hui, j'ai été mieux plus tard. J'ai effectivement dû après réapprendre à maîtriser mon corps.
C'est que l'intervention a suffi, il n'y a pas eu de traitement derrière particulier?
Il y en a eu, clairement il y en a eu.
Ah, quand même.
C'est une affection auto-immune, donc la plupart des traitements sont symptomatiques.
D'accord.
Il y a eu du traitement derrière. Il y en a eu, aujourd'hui j'en ai beaucoup moins, clairement, j'ai une vie normale, mais il y en a quand même eu parce que c'est un traitement symptomatique. Donc si on arrête tout, si j'arrête mon traitement, donc mais c'est du comprimé à prendre à quelques reprises par jour, et pour le coup ce n'est pas grand chose au regard de ce que j'ai traversé
bien
dans
sûr.
Mon enfance.
Qu'est-ce que vous avez retrouvé en premier?
Qu'est-ce que j'ai retrouvé en premier? La marche.
Ah,
quoique, non, attendez. Donc, ça a été retrouver la déglutition, ensuite l'articulation.
La parole, oui.
Absolument, donc communiquer. Après la marche, ça c'était chouette, c'est le fait de retrouver de l'autonomie.
Vos parents devaient être dans un état de joie, de bonheur à ce moment-là ?
Absolument, oui. Clairement, ils étaient extrêmement ravis. Et pour le coup, ça a été une grande joie. J'en ai parlé récemment avec mon père. Il m'a dit, mais jamais à l'époque où tu étais enfant, on aurait cru que tu deviennes une femme aussi accomplie dans une carrière, etc. Mais c'était pour lui de l'ordre du miracle. Et là, pour le coup, c'est bon d'entendre ça, même en tant qu'adulte. C'est juste énorme en tant que parent d'entendre ses parents vivre ça. Enfin, là, je peux imaginer ce qu'ils ont pu ressentir. Et c'est une douleur atroce que de voir son enfant souffrir comme ça et de ne pas être sûr qu'il puisse survivre, parce que j'ai quand même été aux soins intensifs à plusieurs reprises, avec un pronostic vital
Ça avait été vraiment à l'extrême limite à chaque fois.
Affreux. Donc, cette notion de mort, je la connais, et c'est vraiment terrible de manquer d'oxygène, parce que c'est vraiment ce qui nous retient la vie, et c'est en termes de minutes.
Est-ce que vous savez combien d'enfants souffrent de cette maladie chaque année ?
Mais écoutez, ça, je l'ignore. Pour le coup. Ah oui, par contre, la myasthénie est une maladie rare, clairement. Mmh. Et c'est une maladie qui apparaît chez les jeunes femmes d'environ 20 à 40 ans. Donc, non seulement c'est une affection rare, mais à mon âge, apparaître de façon aussi précoce, c'est rarissime. Ah, c'est la raison pour laquelle on a dû chercher longtemps ce que j'avais.
À 4 ans, normalement, ça n'arrive jamais, ça.
Ça peut arriver, c'est ce qu'on appelle les formes... je perds le
précoce.
Mot. Ce sont des congénitales. On appelle cela une myasthénie congénitale. Et pour mon cas, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas une myasthénie congénitale, c'était une myasthénie, et ça l'est toujours, une myasthénie auto-immune, ce qui est différent.
D'accord.
Ouais, donc là, pour le coup, c'est infiniment rare et c'est extrêmement rare. Et je pense qu'il y a très peu d'enfants qui ont eu la même affection que moi. Et d'ailleurs, quand j'étais ado, je cherchais des personnes comme moi, des jeunes, mais la plupart du temps, les associations, donc c'est l'AFM, hein, l'Association française contre l'homéopathie, étaient composées de femmes myasthéniques, mais plus âgées, qui avaient une cinquantaine, une soixantaine d'années. Hein. Donc, rarement vu des ados. Hein.
Vous parlez, ça n'attaque que les femmes, d'après ce que je comprends ?
Beaucoup plus les femmes que les hommes, mais je crois que la prévalence s'inverse avec l'âge. Plus on avance en âge, plus ce sont les hommes. Mais là, ce sont des approximations, et je vous inviterai à vérifier les chiffres quand même.
Et quel est le pourcentage de risque de décès pour les gens à qui on apprend ça quand ils ont 30, 40 ans, 50 ans ?
Oh, mais Sabine, vous
c'est élevé ?
Non, c'est pas. Poser une colle, non, j'en ai aucune idée.
Qu'est-ce que vous disaient les médecins ? Est-ce qu'ils avaient l'espoir que vous puissiez guérir un jour ou ça leur semblait absolument
non.
Impossible ?
Je me souviens que j'avais fait un questionnaire pour le médecin, le pédiatre, c'est un neuropédiatre qui me suivait étant enfant, et il m'a dit non, tu ne guériras pas, c'est incurable. Et là, c'est entré dans mon cœur comme un poignard, j'imaginais, à ne pas pouvoir jouer, parce qu'à l'époque, j'avais pas de tonus, donc à ne pas pouvoir jouer avec les autres. Enfin, à ne pas avoir de vie, forcément enfin, classique. Mais là, étant enfant, je pensais jouer à la marelle comme les autres ou à la corde à sauter. Hein. Ce n'était pas non plus une carrière ou quoi que ce soit. Mais c'est juste être comme les autres enfants, tout simplement. Et ça, manifestement, sur le moment, ce n'était pas possible.
Oui.
Ouais, c'était terrible.
Mais c'est souvent des phrases qui sont dures à entendre.
N'est-ce pas ?
Programmation négative qui n'est pas utile, je pense.
Oui, mais Et j'avais un état d'esprit qui a pu dépasser ça. Donc, clairement, je ne me suis pas arrêtée à ce type de prophétie qui n'est pas autoréalisatrice en ce qui me concerne, clairement.
Donc, vous avez commencé à retrouver la respiration, la déglutition, la parole, la marche, et puis petit à petit toutes vos facultés ?
Oui, et l'autonomie, et ça a été vraiment extraordinaire.
Plus de fauteuil ?
Non, plus de fauteuil.
Ah,
c'est chouette. C'est extraordinaire d'avoir un corps qui fonctionne. Je ne sais pas si les auditeurs peuvent s'imaginer ça, mais il faut l'avoir vécu pour ne serait-ce que l'envisager, parce que...
Et non, c'est comme tout, on n'a jamais conscience de ce qu'on a.
Eh ouais, et c'est terriblement... c'est bon, quoi. C'est bon d'avoir un corps qui fonctionne. J'avais l'impression, plus j'étais ado, vous savez, l'âge auquel on explore son corps. Mais pour moi, je découvrais toutes ces facultés que je retrouvais. Et c'était vraiment chouette parce qu'il s'agissait pour moi d'être comme les autres, même si j'avais des particularités physiques. Mais j'étais... autonome et c'était chouette de pouvoir enfin refaire du sport, enfin monter, descendre des escaliers.
Quelle particularité physique mentionnez-vous là ?
Parce que j'avais ma cicatrice,
ah oui,
très longue cicatrice que j'ai cachée avec des chemises boutonnées jusqu'au le dernier bouton là, donc vraiment cachée. Et mes amis et moi, je me souviens, la mission c'est d'aller chercher un maillot de bain quoi, qui me cachait cette cicatrice. Et il s'agissait vraiment de la dissimuler. Bon, maintenant je suis passée au-dessus, hein, ça m'est égal, mais ça a été quand même un complexe durant mon adolescence.
Oui, c'est ça.
Et désormais,
c'est pour une jeune femme.
Oui, non, mais j'ai bien grandi, hein, j'ai changé. Il s'agit d'accepter son corps, puisque désormais, donc avec l'âge, hein, certainement, la maturité, on est plus en paix avec son corps.
Et puis vous lui devez bien ça, après tout le beau cadeau qu'il vous a fait. Hein.
Pardon ?
Vous lui devez bien ça, de l'accepter tel qu'il est.
N'est-ce pas ? Mais il fut une époque où je le considérais comme une machine, puisqu'il devait fonctionner. Et le fait d'avoir pratiqué la méditation de pleine conscience, je l'ai apprise il y a environ 6-7 ans, et ça a été une véritable révolution dans ma vie.
Il me semblait bien, en vous écoutant, qu'il y avait quelque chose d'assez centré, là, oui.
Ouais. Et du coup, voilà, la méditation m'a aidée à me réconcilier avec ce corps que je ne considérais plus comme une machine à sculpter, une machine qui devait faire preuve de performance. Mais là, j'avais cette envie et cette prise de conscience de prendre mon corps tel qu'il était, dans sa globalité, et d'accepter ses failles, d'accepter...
Votre corps, c'est vous, surtout.
Certaines limites. Ouais, absolument. Et
c'est, là, c'est pas un personnage extérieur, c'est vous.
Voilà, exactement. Du coup, c'était vraiment m'accepter dans cette globalité. Et c'est vraiment une autre approche du corps qu'on a, puisque là, pour le coup, c'est moi, mes cicatrices, et toute mon histoire qui fait partie de moi, en fait. Et c'est juste important d'être en relation avec son propre corps. Parce que je n'étais pas, hein, d'une part, et là, je vais reprendre ce que vous disiez à votre lors de votre introduction, que l'on a tendance à être des êtres d'émotion, on est aussi des êtres de corps. Et parfois, effectivement, on peut nous amener à nous couper de nos émotions dans le cadre de notre éducation.
C'est le corps qui s'exprime, d'ailleurs.
Absolument, c'est le corps qui s'exprime.
Il faut que ça sorte, hein.
Oui, non, mais c'est dingue. Et justement, en tant qu'enfant qui a été malade, on m'a souvent dit « il faut que tu sois absolument forte, serre les dents, effectivement, ça fait mal, mais ne pleure pas, etc. » Et c'est très dur d'entendre ça. Et c'est en cela que j'ai considéré mon corps comme une machine pendant un certain temps, qui était dans la performance et l'esthétique. Et là, ce n'est pas ce type d'affirmation qui est très aidante dans la structuration d'un enfant. Et comme je viens de vous le dire, la méditation a été extrêmement précieuse pour moi, parce que là, pour le coup, c'est juste moi, mon corps et toute cette globalité que je ressens avec mes émotions, cette part émotionnelle qui est essentielle.
Vous n'êtes plus dissociée.
Et non, je ne suis plus dissociée, et j'adore. Et c'est en ça que...
C'est en ça que je retrouve l'équilibre. Et oui, bien sûr.
Et c'est nécessaire.
Là, vous prêchez pour ma paroisse, là.
ouais, bah, tant mieux. Non, mais c'est un plaisir, effectivement, de sentir que d'avoir cette même longueur d'onde. Et du coup, c'est bien de le transmettre, notamment à d'autres personnes qui peuvent être dans la douleur et qui ont cette tendance à cliver le corps et le soi, en fait. Et ça, c'est dommage de ne pas se considérer comme une globalité.
Parce qu'on a tendance à détester ce qui nous fait du mal. Comme les gens qui sont en surpoids, qui disent je déteste, et qui se pincent le ventre et qui vous disent je déteste mon corps.
Absolument.
Et les gens qui sont malades, qui disent mais c'est pas juste, donc ils se mettent à détester ce corps qui ne fonctionne pas. Et malheureusement, c'est le pire moyen de... On peut pas avancer si on n'est pas réconcilié avec soi-même. C'est impossible.
Absolument. Oui, c'est nécessaire de se réconcilier avec soi-même, d'apprivoiser ce corps, parce que c'est un cheminement intellectuel. Et là, pour le coup, c'est beaucoup ce que je dis à des personnes que j'aide, parce que il est nécessaire de se respecter. Après, ne pas s'aimer, enfin, c'est deux choses différentes, mais le fait de se respecter est très important, parce que notre corps, c'est nous, et on vivra jusqu'au dernier jour avec, qu'on l'aime ou pas.
C'est le seul véhicule qu'on a pour traverser la vie.
N'est-ce pas ? Il sera constamment là pour nous, et c'est un allié. Il faut savoir l'écouter, parce que quand on est en relation avec soi-même, ses ressentis, ses intuitions ne mentent pas. Le corps ne nous ment pas. Il est d'une loyauté. Enfin, c'est nous, quoi. Nos émotions sont nôtres, et dès lors qu'on sait les entendre, qu'on sait les écouter et en faire quelque chose et prendre ses décisions à partir de ça, en général, on est dans le bon et on est très, comme vous disiez, axé. Mais en tout cas, on sait qu'on a pris la bonne décision.
Et oui. Et d'ailleurs, quand on arrive à ce stade-là, quand on a une décision à prendre, il suffit juste d'écouter son corps. Les quelques secondes qui suivent la prise de décision, on sait si c'est OK ou si c'est pas OK.
Oui, le corps nous dit. Non, mais c'est absolument vrai. Et quand je dois prendre une décision importante, lorsque je suis face à un dilemme, je prends un petit moment au calme pour me centrer, prendre un petit temps de respiration et
c'est
de méditation
le secret,
et juste après. Oui, c'est le secret. Hein. Et l'esprit est plus clair. Et pareil, hein, le corps nous parle, notamment lorsque l'on fait des mauvais choix amoureux. Enfin, je pense à un auditeur que vous venez d'avoir récemment. Enfin, je ne me permettrai pas de juger. Mais le corps sait quand, enfin, le corps s'exprime en tout cas lorsqu'on a fait une rencontre et qu'on ne le sent pas, on ne sent pas cette personne, ou quand on se sent un peu mal après avoir rencontré un proche, on sait.
Et quand on dit j'ai la boule au ventre, bien sûr.
On le sait, hein.
Il y a plein d'expressions qui prouvent que le corps s'exprime. Le mal de dos, bien sûr. Le mal de dos et surtout cette fameuse boule qu'on a dans la gorge ou sur l'estomac.
Ouais.
C'est coincé, ça passe pas. Qu'est-ce qui ne passe pas? C'est mon corps qui me dit quelque chose, mais mon corps, il dit quoi? Il parle de mes émotions, simplement.
Et absolument.
Celles que je n'ai pas voulu écouter, celles que je n'ai pas entendues.
Oui, exactement, celles qu'on ne veut pas entendre. Mais cette voix intérieure qu'on a et ses ressentis, on les sait. Et là où on ne s'écoute pas constamment, enfin, on sent qu'on ne s'écoute pas. Et de toute façon, il y a ce petit vélo dans la tête, vous savez, en background, en arrière-plan.
En toile de fond. Hein.
Oui, en toile de fond. On a cette petite voix dans la tête qui nous dit non, c'est pas le bon moment. Et du coup, on est en conflit intérieur quand du point de vue rationnel, parce que tout à l'heure, vous parliez du 15% de rationnel, là. Quand du point de vue de rationnel, on se dit c'est OK, j'ai pris la bonne décision, mais au fond de soi, émotionnellement et viscéralement,
on sait
quand on sait s'écouter. C'est en ça que le fait d'être attentif à ses ressentis est précieux, parce que ça, c'est un allié qui ne nous mentira jamais. Et c'est en ça que la méditation a été extrêmement... ça a été un véritable trésor pour moi, clairement.
Alors, avec toute cette belle évolution, qu'est-ce que vous avez construit dans votre vie sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, tout ça?
Pas mal de choses... Bien, familial, je suis toujours extrêmement entourée, ça c'est précieux dans mon existence. Du point de vue de ma carrière, puisque bon, ma vie a été une conquête et maintenant c'est un cadeau, désormais je me fais plaisir et la boucle est bouclée, puisque à mon tour, j'ai le plaisir d'offrir mon aide. Donc j'aide des jeunes femmes touchées par un cancer du sein à faire face à la maladie et à la transformer en tremplin dans leur existence.
Comment ça? Par quel biais?
Je suis psychologue de formation.
Ah, d'accord.
Oui, je suis psychologue de formation et j'aide c'est des jeunes femmes, entre 20 et 45 ans. J'aide ces jeunes femmes à faire face à cela et à transformer cette difficile épreuve qu'est la maladie et le fait d'être confrontée à une maladie potentiellement mortelle.
À sa propre fin.
C'est violent, surtout quand on est jeune, qu'on a créé une carrière et qu'on a l'impression d'être en mode, la vie est devant moi. Et là, pour le coup, c'est génial de les aider, c'est un pur plaisir, parce que là, pour le coup, la boucle est bouclée. Je rends quelque part ce que l'on m'a donné et il fallait que je donne du sens à ma vie, nécessairement. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai créé un site web qui s'appelle phoenixrose.com, dans lequel je transmets des stratégies pour aider ces femmes à devenir actrices de leur sens.
C'est ça?
Vous avez dit Phoenix Rose.
Non, j'étais un peu surprise, j'ai pas compris le mot que vous avez dit.
Non, c'est Phoenix Rose, Phoenix comme un phénix.
Mais oui, je me disais, c'est bizarre d'appeler ça, je crois que c'était un clin d'œil humoristique,
Phoenix Rose. Oh mon Dieu, non, mais vous savez que je fais preuve de beaucoup d'humour, mais j'hésite peut-être un peu sur mon site web, parce que, étant donné que je suis pas forcément concernée.
Phoenix Rose, d'accord.
Non, c'est Phoenix comme la créature qui renaît
de
ses cendres,
oui,
et Rose...
Sûr.
Ouais. Bah, le phénix, ouais, c'est vraiment la créature qui c'est la résilience, et rose, c'est la couleur du cancer
du sein.
Ouais, clairement. Et du coup, dans phénixrose.com, j'aide les femmes à devenir actrices de leurs soins et à surmonter le contre-coup après les traitements, parce que ce qu'on sait très peu, c'est qu'il y a une sorte de blackout après les traitements, et ça, pour le coup, c'est important de le savoir, parce que beaucoup d'entre elles culpabilisent à se dire « Oh mon Dieu, on vient de me sauver la vie, je viens de passer des soins extrêmement difficiles, et là, je me sens déprimée, dépressive, abandonnée, mais c'est normal, mesdames. Aucune inquiétude, c'est normal. »
Votre site est en anglais?
Non, il est en français.
Pourquoi on l'a en anglais?
C'est drôle que vous demandiez ça.
Parce que Nicolas me l'a sorti là pour que je puisse le voir, et il sort en anglais.
Ah, c'est drôle. Non, il est en français. Ça se fait Phoenix, Phoenix, rose.com. C'est Phénix, mais je l'écris en français.
Ah, il n'y a pas le O.
Non, non, non. À la base, je voulais l'écrire avec le OE, mais malheureusement, les patientes que je suis, non, c'est pas qu'il était pris, mais les patientes que je suis l'écrivent avec un E accent aigu.
Ah oui, Phénix, en phonétique pratiquement.
Ouais, c'est dingue. Hein. Moi, c'était OE comme la ville des États-Unis, Phénix.
Attendez, on est en train de me le montrer en même temps. Bon, Nicolas est en train de chercher tout ça. Mais oui, c'est ce qu'on a. Vous êtes exactement l'exemple même de la résilience, quoi. Et comme vous dites, la boucle est bouclée quand on arrive à faire d'une épreuve un défi qu'on a surmonté et qu'on arrive en plus à aider les autres après. Mais qu'est-ce que c'est ? Quel beau cadeau de la vie, hein.
C'est le sens de ma vie. Non, mais sincèrement, je suis tellement heureuse. Et vous vous rendez compte, jamais j'aurais imaginé ça étant enfant, puisque moi-même, je ne pouvais quasiment rien faire. Comme je vous disais, prisonnière de mon corps. Et c'est juste génial, l'enfant en situation de handicap qui aide des personnes valides à aller plus loin dans leur vie. Et on a beaucoup plus de marge de manœuvre qu'on le croit. On a des ressources, mais chacun d'entre nous a ses ressources. En réalité, c'est qu'on ne les a pas utilisées. La vie, si vous ne savez pas, c'est que la vie ne vous a pas encore donné l'occasion de l'expérimenter. Mais quand vous l'avez, croyez-moi, vous le faites, parce qu'on n'a pas le choix.
Avec l'hypnose, d'accord, je passe mes journées à expliquer aux gens que le pouvoir, ce n'est pas moi qui l'ai, c'est eux.
Ouais.
Que les compétences, elles viennent d'eux à l'intérieur, mais qu'on ne leur a pas montré le chemin, effectivement.
Exactement, et c'est passionnant quand vous voyez les personnes s'en rendre compte, parce que quand elles arrivent, elles sont dans le doute, et c'est quand il y a ce déclic, et qu'elles se rendent compte de ce qu'elles ont en elles, et c'est en ça que je vous dis que je les aide à aller plus loin et à transformer leur existence en tremplin, parce que quand on a traversé une maladie comme ça, il y a un avant-après, d'une part parce qu'on a éprouvé la finitude, mais d'autre part parce qu'on est conscient de ce dont on est capable et on se dit mais il faut que ça change quoi, on en vit en gros, il y a une de mes copines qui dit ça, mais de déchirer la planète parce qu'on a traversé quelque chose de fou quoi.
Si vous saviez comme ça me parle.
Ouais, non mais j'en suis persuadée que ça vous parle, et comment
j'ai deux questions Florence, pourquoi le cancer du sein et pas toutes les femmes qui ont tous les cancers?
Parce que il y a un côté, chez les femmes, le cancer du sein est très peu diagnostiqué, chez les jeunes femmes, attention, parce que le dépistage est entre 50 et 74 ans. Or, il y a beaucoup de jeunes femmes, parce qu'elles sont jeunes, elles sont moins bien dépistées, et donc, pendant qu'elles sont dans cette errance diagnostique que moi-même j'ai connue, hein, pendant qu'elles sont dans cette errance diagnostique, la maladie, elle, se développe. Et c'est une perte de chance que je trouve terriblement injuste. En plus, on est en France, en plus, on a des soins, on a un système de santé extraordinaire, parce que je connais les États-Unis, les pays anglo-saxons. Et là, par manque de... Enfin, beaucoup de mes patientes m'ont dit qu'on ne les a pas forcément cru, qu'on leur a souvent dit que vous êtes trop jeune pour avoir un cancer. Justement, c'est l'accroche de mon site web. J'ai dit,
oui, en gros,
j'ai dû dire une phrase comme on vous a dit que vous étiez trop jeune pour avoir un cancer. Pas de souci, si vous êtes à votre place. Mais effectivement, j'ai beaucoup de patients qui m'ont dit non, on m'a dit que j'étais trop jeune, que c'était dans ma tête, etc. Et c'est dommage que la maladie, pendant ce temps-là, elle ne pardonne pas. Et en plus, lorsqu'on est jeune, lorsque les femmes sont jeunes, les cancers sont souvent plus agressifs. Combien de mastectomies pourraient être évitées si le diagnostic pouvait être plus précoce? Combien de vies, finalement, sauvées? Parce que, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu un... Cet été, il y a un collectif qui s'appelle les Triplettes, qui lutte pour, qui a lutté notamment pour l'accès aux soins à des femmes qui ont un cancer du sein de type triple négatif. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont ce type de cancer du sein, et ce cancer du sein est redoutable, c'est le plus agressif. On dit qu'il y a 9 femmes sur 10 qui sont soignées du cancer du sein, et dans les 10% qui ne sont pas soignées, c'est souvent, hein, pas
d'accord,
tous.
Ça, il y en a d'autres
qui sont triple négatifs. Mmh. Ouais. Et du coup, beaucoup de jeunes ont ce cancer-là, et celui-ci est agressif et il évolue très vite. Alors vous imaginez l'errance diagnostique, à quel point elle n'est pas... Elle ne pardonne pas.
Elle est dangereuse, bien sûr.
Mais c'est terrible. Et beaucoup de femmes sont décédées de ça, des mamans, des jeunes, vraiment. Et ça sent le cœur. Donc, j'ai un petit côté militant aussi. Et du coup, je dis non, ça va être les jeunes parce que j'ai envie de ça. Il y a tellement de choses à construire. En plus, quand on a surmonté ça en étant jeune, je pense qu'il y a aussi une vie, une autre vie à construire, hors du train-train quotidien. Et là, on se rend compte du caractère précieux de l'existence. Et en général, celles qui s'en sortent après, c'est la relation d'aide qu'elles font. Je crée des petits bébés.
Où êtes-vous géographiquement?
Géographiquement, je suis à Paris.
Vous êtes à Paris?
Oui.
D'accord. Parce que
Mais je vais peut-être bientôt partir à l'étranger parce que.
Ah.
Ouais. Parce que le climat parisien ne me plaît plus tant que ça. Et du coup, je vais certainement aller sous de plus charmants climats.
Parce que je vois sur
La
votre
Caraïbe.
site que vous proposez une aide gratuite finalement. À quoi on a accès sur votre site gratuitement?
Sur mon site gratuitement, on a accès à des stratégies. Donc, c'est
Oui,
une sorte
c'est
de
ça.
coaching, c'est ce qu'on appelle une série d'emails. Donc, j'envoie des emails tous les 2 jours où je montre donc des stratégies concrètes. Ça peut être, comme bon, là, ça va être de tête, hein. Ça peut être lire un document pour être actrice de ses soins. Donc, pour être actrice de ses soins, il faut s'informer.
Préservez
L'information, c'est
votre
le
image
pouvoir.
corporelle et vos relations intimes, je vois.
Exactement.
Brisez la
Bien, voilà.
solitude, gardez l'espoir. Ne soyez pas perdu lorsque vos médecins vous parlent du cancer et des traitements.
Exactement.
Calmez
Donc il
votre
s'agit de
esprit.
s'informer.
D'accord. Et tout ça, vous
Oui,
faites
s'informer
gratuitement.
parce que l'information, c'est le pouvoir. Être actrice de ses soins, il faut d'abord s'informer, clairement.
D'accord.
Il faut connaître les sources officielles, donc du guide que je propose, c'est celui de la Ligue contre le cancer. Ensuite, je propose à des femmes de télécharger un listing de questions à poser à leur médecin oncologue. Qu'est-ce que ça va être? Quel type de chimiothérapie
Oui,
j'aurai?
oui,
Combien de temps? Quel type de traitement? Quel effet secondaire? À quoi je dois m'attendre? Est-ce que je pourrais avoir une vie normale? Est-ce que je pourrais conduire? Est-ce que je serai opérationnelle au travail? Est-ce qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, mais la chimiothérapie a un impact cognitif en fait. Et du coup, c'est peu documenté en France, malheureusement. C'est ce qu'on appelle le chemo brain, le brouillard mental.
oui.
Et donc voilà, est-ce que. Enfin, il y a plein de questions. Donc le but, c'est vraiment de rendre les personnes actrices avec des outils opérationnels. Donc, tous les 2 jours, j'envoie un mail en leur demandant pour vos prochains mails de faire les exercices, puisque c'est la pratique qui permet. Donc, quand je dis faire des exercices, c'est lire la partie du guide qui concerne les soins. Notamment, ça peut être la chirurgie pour la première partie de ma séquence email. Donc, vous savez ce qu'est une chirurgie du sein. Et ensuite, vous avez une liste de questions à poser à votre chirurgien. En l'occurrence, ça va être pourquoi est-ce qu'on fait cette chirurgie? Quelle partie? Si on doit faire ce qu'on appelle une tumorectomie, quelle partie de la poitrine? Désolée,
Non, mais c'est un
c'est
vrai
assez
coaching.
clair, mais
Non, mais c'est un vrai coaching essentiel parce que pour parler beaucoup avec des femmes qui ont des cancers différents, je sais à quel
oui.
point on est perdu seul et on ne sait pas à qui, on ne sait même pas quelle question
Oui.
poser, donc vous avez entièrement raison.
Ouais. Ouais. Bah, c'est de la pratique, hein. C'est vraiment pragmatico-pratique. Et du coup, elles sortent de ça et elles savent quoi poser. Donc, je leur donne la liste des questions à cocher et ça, vous emmenez cette liste avec votre oncologue pour ne pas être perdu. Déjà, il y a les
Mais
termes,
rien que
elles
ça,
sont prises
c'est
par les
énorme, c'est
émotions.
énorme. Ouais, ouais.
C'est fou, hein. Elles sont prises par les émotions, on comprend rien. Enfin,
Bah, il y a de
le monde
quoi,
médical est flippant. Moi, j'ai grandi dedans, je connais, mais c'est
hein.
flippant. T'es dedans, tu comprends rien. Ils ont leur jargon. Mais les médecins sont formidables, hein, clairement. Mais quand les femmes sont dedans, qu'elles ont été en bonne santé, le cancer fait peur, hein, clairement. Enfin, moi, j'ai l'habitude de la maladie, bon, ça me dérange pas.
Ce que je vous
Mais
propose, Florent, je vous bouscule un peu parce que l'émission va se terminer.
Ah,
Vous
oui,
savez que
bien
j'ai
sûr.
une page Facebook publique qui s'appelle Sabine Marin, tout simplement.
Ouais.
J'aimerais beaucoup parler de vous et de votre site demain, si vous le permettez.
Ah, avec joie. Bah, si vous voulez, on peut faire une interview ou quelque chose de genre. Enfin, je sais pas si
Ah,
c'est ça.
sur ma page, je ne fais pas vraiment ça, c'est juste simplement des liens. Donc
Ok.
je parlerai de vous pour les gens qui n'auraient pas été à l'écoute ce soir, pour qu'il y ait un relais.
Ah, c'est gentil.
Et je raconterai en quelques mots notre échange, et puis je mettrai le lien vers votre site. Parce que je trouve que
D'accord.
ce que vous faites est formidable et que votre parcours est exceptionnel et que c'est extrêmement généreux à vous d'avoir partagé tout ça avec nous.
Ah, c'est normal, non, c'est un plaisir. Bien, du coup, je vais juste 2 petites choses pour les auditeurs, du coup. On aime aider ou on n'aime pas, hein, mais je crois que je suis dedans. Une chose, c'est ce que je sais que. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, voilà, la première chose, c'est que. Certainement, beaucoup de vos auditeurs, puisque s'ils écoutent la libre antenne, c'est que bon, la vie n'est pas forcément facile pour eux.
Très vite, Florence, il nous reste
Bon,
30 secondes.
d'accord. Donc, rapidement, juste vous dire, si la vie est difficile pour vous et si votre corps ne vous apporte pas satisfaction, ne vous abandonnez jamais. Clairement, il sera toujours là pour vous, mais vous n'abandonnez jamais votre corps, respectez-vous toujours. Et la deuxième chose, c'est. Si le soir vous angoissez et qu'après la libre antenne vous ne savez pas quoi faire, écoutez des livres audio parce que ça peut vous aider à vous endormir. Écoutez une belle histoire comme quand vous étiez enfant et
Ok.
ça peut vous détendre.
Florence,
Voilà.
il vous reste
Voilà.
10 secondes. Merci 1000 fois. Je vous promets qu'on prend le
Au
relais sur ma page
revoir.
Facebook
Oui,
dès
c'était un
demain.
plaisir, Sabine. Au revoir.
Plaisir partagé. Merci à vous. C'est terminé, effectivement. Il nous reste quelques secondes pour nous dire au revoir. Merci à tous pour cette belle émission.